Réplique, notre vie intellectuelle, avec Pierre Nora. Dans le prologue de son dernier livre, Une étrange obstination, Pierre Nora se définit comme un marginal central. Marginal parce qu'il n'a pas été, écrit-il, un universitaire classique, ni un éditeur professionnel, ni un historien typique, ni un authentique écrivain, encore qu'un peu tout cela. Central cependant, parce que beaucoup des auteurs, beaucoup des idées d'une des époques les plus effervescentes et créatrices de la France contemporaine sont passées par son petit bureau du premier étage de la rue Sébastien-Bottin, devenu Gaston Gallimard, à portée de vue, à portée de main. Cette position paradoxale fait de Pierre Nora un des grands protagonistes et en même temps le témoin par excellence de notre vie intellectuelle. Ses principales figures défilent dans une étrange obstination. Et à tout seigneur, tout honneur, je voudrais commencer cette émission par l'un des penseurs les plus marquants de notre époque, Michel Foucault. Que représente-t-il pour vous, éditeur et historien, Pierre Nora, et quel est à vos yeux son héritage ?
Michel Foucault était probablement mon auteur le plus important, celui que j'ai publié dès mon arrivée chez Gallimard, Les mots et les choses. Je le connaissais un peu par François Furet, qui me l'avait présenté à la Bibliothèque nationale. J'avais fait avec lui le projet d'un petit livre pour la collection Archives sur les embastillés. C'était bien entendu, il aimait beaucoup ma femme en même temps, qui était Françoise Cachin à l'époque, j'aimais beaucoup Daniel Defer, son compagnon, et le succès formidable des mots et les choses l'a lancé comme l'auteur qui tout d'un coup supplantait le magistère sartrien, imposait une nouvelle façon d'écrire l'histoire des idées. J'avais beaucoup aimé, sans le connaître, l'histoire de la folie.
Pourquoi ce livre n'a-t-il pas été publié chez Gallimard, justement, Histoire de la folie ?
Eh ben parce qu'il a été refusé.
Voilà, c'est ça, par Brice Parrain.
Par Brice Parrain.
Qui a quand même eu le mérite de refuser, si j'ose dire, et l'histoire de folie
et les mots et les choses. C'est pas mal.
Et l'anthropologie structurale, d'ailleurs.
Et l'anthropologie, il a récidivé avec l'anthropologie structurale.
Et vous dites dans votre livre, il était sartrien, donc il ne pouvait pas comprendre la nouveauté représentée par le structuralisme.
Oui, encore que le fait qu'il n'ait pas compris qu'il s'agissait de deux grands écrivains est quand même un peu coupable.
C'est étrange.
Donc cette petite parenthèse, et revenons à Foucault. Je pense que ça a été l'idylle et que l'arrivée chez Gallimard des mots et les choses a fait de lui un très grand auteur et a fait de moi une sorte de grand éditeur malgré lui, si j'ose dire.
Est-ce que vous attendiez au succès de Les mots et les choses ? Le livre est paru, je crois, au mois de juin.
Oui.
Parce que Foucault dit, je crois, quelque part que lui-même a été surpris parce que le livre paraissait en même temps que Masse et puissance de Canetti et il s'attendait à ce que l'attention aille et le succès aille à Masse et puissance et c'est l'inverse qui s'est produit.
C'est l'inverse et ça m'a brouillé avec Canetti pour lequel j'avais une espèce d'admiration passionnée et qui mettait pour moi une sorte de Nietzsche redivivus et dont l'échec m'a beaucoup aidé et l'a tellement aidé lui qui s'est brouillé avec moi parce que c'était un homme extrêmement possessif et je n'aurais pas dû publier son livre pour beaucoup de raisons, en même temps que d'autres, dont le Foucault, et parce qu'il n'était pas véritablement démonstratif des sciences humaines. C'est un livre qui mêle beaucoup de choses, mais qui est un livre très personnel, très littéraire, mais qui m'avait puissamment impressionné. Bon, je ferme aussi la parenthèse, parce que j'ai eu aussi avec lui des rapports passionnés, mais avec Foucault, le grand succès rapproche toujours un auteur de son éditeur. Donc, pour me faire de l'honneur, il m'avait invité avec ma femme Françoise en Tunisie, et ça a été un étrange voyage. Enfin, ça m'a laissé beaucoup d'étranges souvenirs. Il était d'une courtoisie excessive, japonaise. Et tout était préparé. Il était venu avec des fleurs à l'aéroport. Il y avait du champagne dans la chambre. Les mets étaient préparés au restaurant alors qu'il ne mangeait pratiquement pas. Et l'idée d'aller se baigner sur la plage et en maillot de bain de parler de Nietzsche, de Sade ou de Artaud, c'est pas banal, si j'ose dire. Ça nous a beaucoup liés, et ça a duré comme ça, je dirais, pendant des années, jusqu'à ce que une certaine forme de fascination qu'il exerçait sur moi ait commencé à se fissurer par ce que j'appelle son rapport à la vérité. Alors que cet homme, ce philosophe, dont le rapport à la vérité est le problème philosophique de fond, il ne parle que de cela, et dit, mon seul problème, c'est la croyance, et le rapport de la croyance et de la vérité, il dit quelque part cette formule, et en même temps, c'était un tel voltigeur, un tel acrobate intellectuel, un tel mélange de contradictions permanentes, que quelque chose me semblait, je ne dis pas du tout factice, absolument pas, mais il y avait en même temps chez lui quelque chose de profondément traqué, douloureux, exclu, qui l'avait quand même mené au bord du suicide quand, dans sa jeunesse et un séjour à Sainte-Anne.
Oui, vous le dites que... Il y a quelque chose de très authentique aussi dans son travail. Il voulait subvertir les séparations, les partages, les oppositions, les divisions. Et l'on sentait bien derrière tout ça l'inguérissable expérience d'exclusion dont la découverte à l'adolescence l'avait mené à la tentative de suicide et au séjour à Sainte-Anne.
Voilà. Donc il y avait un mélange d'exaltation intellectuelle et de tragique existentiel, voilà, si j'ose dire, chez lui. C'est le moment où je commençais à fréquenter Marcel Gauchet et à commencer à songer aussi à la revue que Gallimard m'avait en fait presque imposée au début et que je n'avais pas tellement envie de faire, que j'ai progressivement intériorisé et le projet et qu'il me fallait un rédacteur en chef, si j'ose dire, ou un secrétaire de rédaction. Et j'ai proposé à Marcel Gauchet, que je connaissais depuis quelques années parce qu'il faisait des lectures pour Gallimard, et qu'il commençait lui-même à écrire, et il a très bien senti avec le premier livre de Gauchet, Foucault, qu'il y avait là une menace.
C'était un livre sur la folie d'ailleurs. Hein.
C'était un livre sur la folie, et le thème de son livre était que les débuts de la psychiatrie, loin de confirmer l'exclusion du ce qu'on appelle globalement un fou, étaient malgré tout avec Pidel ou Esquirol une manière d'essayer de ramener à l'humain quelqu'un qui n'était pas à ce point aliéné qu'il ne conservait quelque chose de l'humain. Voilà.
Oui,
mais alors, c'était une thèse qui était totalement contraire à celle de Foucault.
Qui parlait de l'exclusion.
Et Foucault qui, c'est aussi le moment où j'ai commencé mes séminaires à l'école de hautes études, et Gauchet y est venu spontanément, et Foucault, par courtoisie vis-à-vis de son éditeur, par intérêt pour ce que faisaient les historiens, y est venu plusieurs fois. Et il a connu Gaucher. Et on sentait que c'était deux types d'esprit totalement différents. Autant celui de Foucault était, comme je le disais, acrobatique, subtil, amusant à beaucoup d'égards, jouant avec les idées en permanence, autant Marcel Gaucher faisait plutôt penser à un paysan laboureur qui traçait son sillon au plus profond et avait une conception de la vérité forte et simple, qui se posait les questions droites, si j'ose dire, qu'est-ce que la religion, ou qu'est-ce que Dieu, ou d'une manière brusque et directe. Voilà, alors ça, il s'en est suivi une sorte de duel à distance entre ces deux hommes, et je me trouvais au milieu. En
vous
quelque
êtes
sorte, dans
milieu.
Une position assez inconfortable.
Et vous êtes trouvé milieu, et ce qui a aussi contribué à crisper votre rapport avec Michel Foucault, c'est en effet le débat, et notamment le premier numéro paru le jour de la mort de Sartre,
oui.
Vous le dites, en avril 80. Et dans ce premier numéro, il y a un article de vous.
Oui, éditorial. Oui, très long.
Sur les intellectuels. Oui. Où Foucault se sent visé. J'ai relu ce texte dans votre livre Historien public. J'ai été un peu étonné parce que ce qui frappe, c'est surtout la rupture avec la conception sartrienne de l'engagement. Dans la mesure où vous placez, avec même le titre, la vie intellectuelle, sous l'égide, sous le paradigme de la conversation, et non plus sous celui de la guerre, du combat. Le débat contre le combat, et pourquoi Foucault s'est-il senti, et a-t-il pensé qu'il était la cible principale de cet appel à ce que vous appelez une démocratie intellectuelle, Pierre Nora?
Eh bien parce que cet éditorial, trop long peut-être, trop percutant parce que je voulais au fond m'imposer par rapport à tous les autres courants d'idées, visait à la fois l'engagement sartrien qui avait à mon avis contaminé tous les intellectuels et discrédité la position intellectuelle à cause des engagements politiques, ciblait en même temps toute cette génération, je dirais, structuralo-hypercritique que Foucault, qui n'était pas d'ailleurs structuraliste, mais qui a été embarqué dans l'histoire structuraliste, représentait à son maximum. Cette notion d'hypercritique, je ne trouve pas d'autres mots, mais à beaucoup d'égards jargonneuse, à beaucoup d'égards
méprisante. Foucault n'était pas jargonneux.
Pardon ?
Foucault n'était pas jargonneux. Foucault, c'était quand même le grand style
c'était
dans la philosophie.
C'était le grand style, mais c'était, comme je vous dis, l'acrobatie.
Oui, c'est ça.
Quand même assez lointaine d'une vérité simple et commune.
Mmh. Donc il s'est senti visé,
oui.
Les rapports se sont considérablement tendus, et vous racontez...
Il comprend un peu,
oui.
Rétrospectivement.
Il a compris, il s'est rendu compte, quoi.
Il s'est bien rendu compte, et il s'est rendu compte que cet ami qui, sans partager ses idées totalement, parce que j'ai jamais été un foucaldien de stricte obédience, mais j'ai défendu sa cause comme éditeur, j'étais solidaire. Et il a senti que quelque chose de cette solidarité était brisé, et au fond, comme c'était un grand sentimental, qui, je pense, avait pour moi de l'affection vraie, il s'est senti trahi. Et il y a quelque chose de vrai dans cette trahison.
Mais d'un autre côté, il a menacé de ne plus aller chez Gallimard.
Oui.
Vous racontez une scène inouïe, Foucault-Claude Gallimard, dans le bureau de Claude Gallimard, où ils en sont venus aux mains.
Oui.
Et vous étiez là, arbitre et en même temps, vous étiez complètement effaré par ce qui s'est passé. Mais malgré tout, il est resté jusqu'au bout.
Oui.
Vous avez publié le premier volume de l'histoire de l'ex-sexualité.
Et les deux autres.
Et les deux autres qui sont venus après 8 ans
oui, de silence.
De silence.
de silence, le fameux silence des intellectuels que Max Gallo leur reprochait au moment de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Mais Foucault avait détesté Mitterrand. Au point, j'étais dans le Midi, il m'avait téléphoné au moment de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, et m'avait dit, quand Pétain arrive au pouvoir et qu'on a une revue, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, mais il est vrai que le silence des intellectuels, la formule de Max Gallo, était particulièrement mal trouvée.
Tout à fait.
Il appelait silence la non-adhésion au mitterrandisme.
C'est ça.
Et Foucault, d'ailleurs, à cette époque, ne s'est pas tu. Il était très engagé auprès du mouvement Solidarność, etc.
Oui.
Donc, en Pologne, ça je m'en souviens très bien, je le connaissais à cette époque. Mais ce que je trouve émouvant aussi, c'est sa trajectoire. C'est-à-dire, dans la volonté de savoir, l'obsession du pouvoir chez Foucault est à son comble. Tout est réductible à des rapports de pouvoir.
Voilà. Et c'est là que naît ce thème obsessionnel, presque, du pouvoir chez Foucault.
Voilà.
C'est dans la volonté de...
C'est dans la volonté de savoir. Mais...
Et ça a été mal accueilli, du coup, par le public. Parce que ce livre mélangeait le problème de la sexualité avec le problème du pouvoir. Et que, pour la première fois, Foucault avait fait un petit livre, au lieu de faire un de ces gros livres massifs et qui vous entraînent, et avait voulu y renoncer à ces gros volumes pour faire une série de petits volumes. Mais je pense qu'il a été mal à l'aise, en fait, avec ce sujet où on attendait de lui la condamnation de la répression sexuelle et l'élan vers la liberté. Or, c'est plutôt l'inverse qu'il a plaidé. Et pour la première fois, Foucault, loin d'être en avant-garde, en quelque sorte, de l'esprit public, était à contre-courant. Et ce contre-courant l'a mis assez mal à l'aise avec ce sujet, je crois, d'autant que ce sujet avait fait l'objet, pour la première fois, de cours au Collège de France pendant plusieurs années, et que Foucault ne savait pas trop comment dominer cette matière, d'autant que ce qui l'intéressait dans l'histoire de la sexualité, c'était évidemment la période des pères de l'Église et de la condamnation de l'homosexualité et l'exclusion précisément dont il était finalement l'objet. Et il a montré ce texte à Paul Venn qui lui a dit, mais tu sais, pour le comprendre, l'attitude des pères de l'Église, il faut plonger dans l'antiquité tardive que Peter Brown lui faisait d'ailleurs connaître de son côté. C'est ce qu'il a fait et du coup l'histoire de la sexualité est devenue un problème qu'il n'arrivait plus à dominer. Et comme il s'est trouvé très mal aussi avec et à contre-temps avec l'époque mitterrandienne, ça s'est porté en plus sur son éditeur et qui n'avait plus en quelque sorte d'appui. Et je crois qu'il a vécu une période assez pénible à son propre égard, d'autant qu'il s'était lancé aussi, et vous d'ailleurs vous devez le savoir, puisque vous en étiez un peu, il vous avait mobilisé, je crois, pour ce journalisme d'idées.
Oui, bien sûr. J'étais le secrétaire de cette petite cellule qu'il avait constituée, et j'ai moi-même... pour le Corriere della Sera,
voilà.
J'ai moi-même effectué deux reportages, l'un aux États-Unis parce qu'il était très intéressé par le mouvement libertarien, Foucault, donc j'étais venu essayer de réfléchir à ça, et puis un autre reportage, cette fois en Israël et en Égypte, avec Benny Lévy, sur la nature de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, la normalisation? Benny Lévy, d'ailleurs, a dû m'abandonner au milieu du guet, en Égypte, dans un milieu plutôt hostile, je dois dire, parce que Sartre était à l'hôpital, était mourant, donc il est rentré à toute vitesse, et j'ai fini le reportage tout seul. Mais en effet, j'ai animé cette cellule
d'autant que
pendant quelques années.
Il s'est lancé dans des reportages sur l'Iran, et avait exalté Khomeini et la révolution qui...
Une révolution
islamique.
Oui.
Il s'était fourvoyé dans cette histoire. Et tout cela explique ce que j'appelle son malaise. Et qui s'est porté en quelque sorte sur moi et qui a abouti dans cette scène apocalyptique dont vous parlez, effectivement, où Foucault a prétendu vouloir quitter Gallimard pour se faire une sorte de réputation de dissident, car il était très sensible à l'époque aux dissidents de l'Est qui arrivaient et auxquels il voulait presque se comparer en disant qu'il était un dissident à l'intérieur de la France elle-même. En plus, j'ajoute qu'il était certainement déjà malade et qu'il ne se contrôlait peut-être plus, et que dans un élan de colère, il a injurié Claude Galibard, l'a saisi à la gorge, ils se sont empoignés l'un l'autre, et que j'ai dû effectivement les séparer comme des garde-bancs dans une cour de récréation, quoi. Et c'est là que, avec Foucault, on s'est réconcilié, si j'ose dire, parce que j'ai pris la défense de Foucault devant son éditeur en disant qu'on ne pouvait pas utiliser des arguments purement juridiques pour garder un homme comme Foucault. Et il m'en a été tellement reconnaissant qu'il m'a presque embrassé les larmes voilà. aux yeux. Et, donc... et c'était fini juste avant, précisément, ce qui a été une agonie du sida, dont on ne savait pas à l'époque ce que c'était. Et, oui. Et tout ça ajoute au tragique de la fin.
Alors, simplement...
Il n'y a pas que Foucault dans mon livre.
Non, il n'y a pas que Foucault dans votre livre, je veux dire...
Dis
un
dans
mot,
la vie intellectuelle.
Avant de revenir au débat et à ce que vous avez voulu y mettre, à ce qu'a pu signifier cette revue, un dernier mot sur Foucault quand même. Parce que, effectivement, à partir de son livre Les mots et les choses, il a exercé un magistère, un ascendant sur la vie intellectuelle. Il réunissait tous les pouvoirs, l'éclat du style, l'érudition, la radicalité. C'était extraordinaire. Et d'un autre côté, quand on lit Dit et écrit, on se rend compte qu'il était lui-même sous influence et que le mouvement de 68 l'avait beaucoup marqué et qu'il courait un peu après. J'ai sous les yeux un texte, un entretien qu'il a fait, Par-delà le bien et le mal, avec des étudiants, des lycéens d'actuels, et il commence par cette question: quelle est la forme de répression la plus insupportable pour un lycéen d'aujourd'hui? L'autorité familiale, le quadrillage quotidien que la police exerce sur la vie de tout homme, l'organisation et la discipline des lycées, ou cette passivité que vous impose la presse, y compris peut-être un journal comme Actuel? Donc, il se met au pied des étudiants, d'ailleurs, comme Sartre au pied de Cohn-Bendit, un peu la même chose, et il dit même que le savoir prend toujours une apparence positive, en réalité, et le mouvement de mai l'a révélé avec force, il fonctionne comme une double répression à l'égard de ceux qui en sont exclus, à l'égard de ceux qui le reçoivent, et auxquels il impose un modèle, des normes, une grille. Donc là, c'est le pouvoir sous la forme de la répression, dans la volonté de savoir. Une autre idée du pouvoir se déploie, mais c'est toujours le pouvoir, une vision un peu paranoïaque de l'humanité et de la société. Et ce qui m'a beaucoup frappé et beaucoup ému dans l'usage des plaisirs et le souci de soi, c'est la volonté qu'a Foucault, dit-il d'ailleurs, de se déprendre de lui-même. Que voudrait l'acharnement du savoir s'il ne devait assurer que l'acquisition des connaissances et non pas d'une certaine façon, et autant que faire se peut, l'égarement de celui qui connaît? Et en effet, Foucault passe d'une vision hyper politique à une histoire de l'éthique, le souci de soi. Comment le sujet se constitue-t-il? Comme s'il sciait les barreaux de son propre système. Et ça m'a beaucoup ému. C'est une époque d'ailleurs où je ne le voyais plus, parce que je ne sais pas pourquoi, enfin peu importe. Mais je trouve cet effort extrêmement rare, comme si Foucault sentait quand même qu'il était allé trop loin dans cette espèce de vision de la domination, du pouvoir, etc. Et que, d'une manière ou d'une autre, il voulait y échapper par son œuvre propre, Pierre Nora.
Oui, il y a cette volonté de s'arracher à soi-même en permanence,
voilà,
qui fait que cette exclusion dont il a été l'objet existentiellement très jeune s'est sauvée par un effort vers le haut permanent.
Voilà, c'est très bien dit. Bon, venons-en maintenant au débat. C'est l'origine, enfin, de votre querelle avec Foucault, querelle surmontée, mais c'est une aventure éditoriale exceptionnelle. Et vous disiez, effectivement, vous en appeliez à la démocratie intellectuelle, Elle est apparue donc dans cette période, puisque des gens d'opinions diverses discutaient, réfléchissaient ensemble. Quelle leçon tirez-vous de ce moment de la vie intellectuelle, Pierre Meurant ?
Eh bien, écoutez, c'est un moment, je dirais, capital, où, globalement parlant, les intellectuels qui étaient révolutionnaires ou pour la révolution se sont convertis à la démocratie, pour dire schématiquement, et l'ont accepté devant l'échec des résultats de la révolution. Solzhenitsyn n'y est pas pour rien, évidemment. Et la révélation du goulag et l'échec humain, politique, économique de la révolution soviétique, la dénonciation par le haut du stalinisme au 20e congrès du Parti de l'Union soviétique en 56, par Khrouchtchev, tout cela a bouleversé l'univers mental des intellectuels. Et on s'est mis à penser, et c'est ça le sens du débat, qu'il ne s'agissait plus pour les intellectuels de transformer le monde, mais de le comprendre.
Voilà.
Et c'était une époque où ce monde lui-même se transformait sourdement dans les années 1980, où naissait une sorte de civilisation nouvelle, à tous égards, mentale, économique, financière. Vous en avez été vous-même, Alain, exactement l'enfant, si j'ose dire, de cette période.
Alors, j'aime bien que vous m'appeliez l'enfant. Moi, il ne cesse de vieillir. Continuez, oui. Pierre Nora.
Mais c'est vrai que votre conception de la culture est née à ce moment-là. Oui. Et vous êtes le fruit, si l'on est enfant, de cette période. Et c'est une période donc que vous avez, vous, plus intense encore vécu que moi, mais moi, j'ai senti très profondément, et je crois que c'est ça qui a fait le débat, que naissait un monde difficile à appréhender, et qui est le monde post-révolutionnaire, et qu'il fallait une intelligence collective. Et ce qui a caractérisé cette période, parce que elle n'est terminée, c'est, je crois, ce intelligence collective, qui s'exprime par définition dans une revue comme le débat, et c'est ce que le débat a voulu représenter. C'est la compréhension d'un nouveau monde par une forme d'intelligence de tous.
Oui.
Et convergente.
Je voudrais vous citer maintenant une maxime.
Ou le titre, le débat.
Le débat, oui.
Qui ne consistait pas à simplement de débattre gaiement après le tragique du XXe siècle, mais qu'il s'agissait tout au contraire de débattre parce que tout devenait en débat.
Tout devenait en débat. Je voudrais citer maintenant donc une phrase d'un grand penseur colombien, Gomez Davila, Nicolas Gomez Davila. Il dit ceci, l'intellectuel n'oppose pas à l'homme d'État l'intégrité de l'esprit, mais le radicalisme de l'inexpérience. Et le débat, c'est un autre type d'intellectuel. Un intellectuel, justement, qui ne s'installait pas dans la facilité, dans la paresse du radicalisme. Qui essayait de penser la complexité des choses, de manière d'ailleurs souvent assez contradictoire. J'ai eu des débats dans le débat.
Oui.
Notamment avec ceux que j'appelle, et vous le rappelez, les sociologues du débat, aussi avec Marcel Gauchet,
oui.
Sur la démocratie et sur Tocqueville. Je trouvais qu'il faisait une lecture trop unilatérale de Tocqueville en vantant les mérites de l'individualisme démocratique, alors que Tocqueville, certes, considère la démocratie comme le meilleur des régimes, mais il voit aussi dans la démocratie un processus. Les eaux du déluge, dit-il, un processus qui n'épargne rien, qui est à la fois fascinant et inquiétant, et qu'il faut savoir modérer. Et c'est cette réflexion que, à ma manière, j'ai essayé de mener dans le sillage de Tocqueville. Donc il y avait un désaccord autour de la pensée de Tocqueville, mais tout ça à l'intérieur d'une conversation générale qui, en effet, avait quelque chose d'euphorique.
Voilà.
Tout le monde se parlait et... Je le disais la semaine dernière, les éditions de l'Artilleur ont republié le livre de Paul Huenet, Voyage au centre du malaise français. un livre qui est d'abord publié dans la collection Le Débat.
Et qui a fait un drame, qui voilà. a fait une polémique.
Terrible.
À gauche.
À gauche, bien sûr. Et d'ailleurs, Éric Conant, dans la postface, rappelle les termes de cette polémique avec des articles extrêmement virulents de Laurent Geoffrin ou de Maurice Safran. Mais Gauchet, dans sa préface, dit ceci. Il parle du bonheur des années 1980.
Voilà.
Ce fut le moment heureux de l'élargissement de l'esprit démocratique à la sphère intellectuelle. Je me souviens d'avoir dit ça, ou à peu près, dans un débat que j'ai eu, un débat. Mais justement, un débat déjà vicié. Vous dites d'ailleurs que cette période se termine. Ben, j'étais invité par Le Monde, à cette époque, je pouvais être encore invité par Le Monde, à un débat avec Patrick Boucheron. Et j'ai dit ça. Réponse de Boucheron, mais qu'est-ce qui vous le prouve? Pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous avez fait une véritable enquête? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez des statistiques? Est-ce que vous travaillez en équipe, m'a-t-il demandé. Et donc, il voulait contester cette impression que j'avais eu et qui me paraît effectivement tout à fait légitime. Non, les années 80 n'ont pas été cette époque bénie. Bien si, je pense que si. Et vous aussi, je crois, Pierre-Marc.
Mais bien sûr, également. Parce qu'encore une fois, c'était le débat.
C'était le débat.
Et pas le combat. Voilà. Et pas le combat, c'était pas un radicalisme tel que la discussion n'était plus possible. Elle l'était. Et donc l'État, le débat voulait la centraliser et être donc une revue, si vous voulez, intellectuelle qui s'élargissait presque à un horizon virtuellement encyclopédique au lieu d'être une militance d'un côté ou d'un autre, ou d'une religion, ou d'une idéologie quelconque.
Mais diriez-vous, justement, que cette période est terminée, et est-ce parce que vous sentez qu'elle est terminée que le débat, je vous ai déjà posé la question, mais je suis amené à la reposer, a mis la clé sous la porte? Parce que, il est vrai, on peut penser, vous auriez pu décider de vous mettre un peu en retrait, notamment pour écrire, vous aviez des choses à dire depuis longtemps, et vous le faites à travers ces deux livres,
jeunesse.
Une jeunesse et une étrange obstination, mais vous pouviez passer le flambeau à Gauchet et Gauchet à d'autres. Et or, ça ne s'est pas fait, parce que vous pensez qu'il est trop tard, que l'atmosphère n'est plus la même, que le combat reprend.
Oui, il y a eu tout un ensemble qui m'ont amené à de raisons à arrêter le débat. Mais je dirais peut-être la principale, c'était que l'âge que nous avions représenté était terminé.
Ouais,
et
terrible.
Que je voulais plutôt le terminer moi-même comme un signal d'alarme plutôt que de laisser la revue s'étioler elle-même sans qu'on comprenne la signification de cet arrêt. Or, la signification de cet arrêt, c'était quand même une sonnerie, si vous voulez, qui voulait se faire, et donc il valait mieux la faire nous-mêmes que la laisser faire. C'est une des raisons. La deuxième, c'est que quand même, du point de vue matériel, le débat qui a eu le mérite d'avoir à sa tête la même équipe de travail pendant 40 ans. Ce qui
Bobian,
est
Gauchet,
Bobian, Gauchet et moi. C'est unique dans l'histoire des revues françaises. Et ce type de revue, au fond, fondamentalement, elle mourait avec l'âge numérique de l'humanité. Ce numérique faisait directement qu'on consultait certains articles du débat et pas la revue. Certes, ça s'est toujours fait dans toutes les revues, on ne lit pas tout et on lit certains articles. Il n'empêche que l'essence de la revue, c'est ce collectif. Et ça n'est pas l'article hors temps, et c'est un laboratoire, c'est une équipe, c'est un travail commun. Et si on lit un article sur le plan numérique, ça pourrait être un article qui vient de n'importe où, qui n'a pas d'encadrement, qui n'a pas d'ensemble, qui n'appartient pas à un type d'esprit. Ça condamne virtuellement ce qu'était dans son essence le débat.
Mais alors ça pourrait condamner toutes les revues.
Ben, je crois qu'elles le sont.
Oui.
Je ne les accuse pas et je souhaite qu'elles restent le plus longtemps possible. Pense que commentaire après Casanova...
Pourtant, il s'est entouré, il a essayé, il veut continuer, il veut... Avant de passer la main, il veut être là. Mais simplement, tout ça, évidemment, est très triste. Ça serre le cœur parce
que... Mais moi aussi, j'aurais voulu passer la main. Oui. Et je l'ai proposé à Gauchet, les yeux dans les yeux.
Il a dit sans vous.
Il n'a pas voulu. Et on était comme un vieux ménage. et qui n'avait pas envie de recommencer avec l'autre. Et qui ne trouvait pas les appuis et la jeunesse. Et qui se serait donc... il ne l'a pas trouvé. Et voilà. Et
il y a des jeunes, il y en aurait pourtant. Mais
et puis, il y avait la volonté chez moi, qui a toujours été écartelée entre la production personnelle et l'édition, le désir de sortir enfin, j'avais près de 90 ans, il était temps de
sortir. Il était temps, et d'ailleurs, ça a donné deux livres majeurs. Mais, évidemment, on a le cœur serré. Il me semble que les choses ont commencé à se déliter, enfin, comment dire, que la parenthèse décrite par Gauchet, hein, ces années 80
heureuses,
cette parenthèse heureuse s'est fermée avec l'apparition du livre de Lindenberg, Les Nouveaux Réactionnaires, qui était quand même une liste noire. Une liste noire sur laquelle je figurais, mais aussi Gauchet, mais aussi Manant, mais aussi Houellebecq. C'était, je l'ai dit, la Dream Team. Et ce livre a été commandité par Pierre Rosanvallon. Et dans son ouvrage « Notre histoire intellectuelle et politique », il en fait l'éloge. Il dit que il souligne son caractère prémonitoire, alors que ce livre a fait exploser, pas tout de suite le débat, mais le Centre Raymond Aron, que Manant et Gauchet dirigeaient avec Rosanvallon. Et je trouve, alors si vous voulez, d'autant plus que Rosanvallon a introduit en France ce que j'appellerais la radicalité d'eau tiède. Et c'est très embêtant parce que on en vit les effets avec la cancel culture, etc., avec ces phénomènes de radicalisation qui pourrissent le climat intellectuel aujourd'hui en France. Mais justement, on a envie de se dire, il faudrait une revue pour penser ça, une revue pour penser aussi l'évolution, pour résister. Vous avez, dans Historien Public, reproduit un article incroyable sur Le Monde, 1976. Vous dites, ça devient un journal d'opinion, 1976. Or, il faudrait un article sur l'évolution de la presse, majeure en Occident, Le Monde, mais aussi le Washington Post, mais aussi le New York Times. Ce qu'est devenu le New York Times est absolument atterrant. On aimerait qu'une revue s'empare du problème.
Un môle de résistance.
Voilà, pour réfléchir, que s'est-il passé? Pourquoi ce tournant? Et puis l'écologie, pourquoi l'écologie passe-t-elle dans la main de... Ce culte de Greta Thunberg, la question de la beauté du monde, le problème migratoire et la désintégration de la France. Tout ça, ce sont des phénomènes d'une actualité extrême qui donnent à penser et qui font souffrir. On se dit, on voudrait une revue pour le dire.
Écoutez, Alain, si j'avais 20 ans moins, je l'aurais fait. Mais
je vous comprends, Mais alors, c'est à Gauchet que s'adresse ma prière. Enfin, peut-être, après tout, j'aurais qu'à le faire moi-même maintenant.
Je ne peux pas répondre pour lui.
Non. Mais donc ça veut dire qu'on a du pain sur la planche.
Lui aussi, il avait une œuvre.
Mais il a une œuvre à faire. On a du pain sur la planche aujourd'hui.
Oui, mais il n'y a plus beaucoup de gens pour le penser.
Et voilà.
On le pensait qu'entre nous.
Voilà. Ça, je suis d'accord.
Ce serait d'un entre-soi.
Voilà. Oui, c'est vrai. La question mérite d'être posée. Mais progressons, parce que il y a eu le débat, l'importance pour vous de la rencontre de Marcel Gauchet, mais également l'œuvre que vous avez entreprise, Les Lieux de mémoire. Ça a été, une œuvre immense. que vous avez dirigé et qui a eu un effet, un retentissement, non seulement en France, mais en Europe et dans le reste du monde. Alors qu'est-ce que c'est, quelle leçon tirez-vous de cette expérience universitaire, intellectuelle, éditoriale, Pierre Nora?
Eh bien, je pense que j'ai senti un mouvement qui se déployait en France, mais que je n'ai compris que la retombée, en fait, en France, d'un mouvement mondial, qu'on pourrait appeler l'avènement de la mémoire en lieu et place de l'histoire. Ce qui se trouve aujourd'hui répandu parce que même les entreprises économiques, même n'importe quelle exposition va dire la mémoire de l'architecture, la mémoire de l'entreprise, au lieu de dire l'histoire, tout simplement. Il s'est passé cet avènement presque tyrannique de ce que l'on a appelé la mémoire et qui n'était que l'antichambre, hélas, de ce qu'on a appelé ensuite l'identité, et dont vous avez saisi aussi l'expression avec l'identité malheureuse, votre livre. Mais au début de ce mouvement, l'avènement de la mémoire a paru profondément libératoire. Il s'est agi de toutes les minorités, en fait, les femmes qui ne sont pas une minorité, mais qui a été traitée de façon minoritaire, les provinciaux, les juifs, qui ont récupéré leur propre histoire, on disait à l'époque se réapproprier son histoire, qui était en fait une forme de mémoire. Pour simplifier les choses, je dirais que en France, vous pouviez avoir, par le truchement de l'école, côte à côte, un arrière-petit-fils d'un guillotiné aristocrate, un juif polonais qui était arrivé dans les années 1930, enfin dont le fils était dans, c'était le fils, le petit-fils d'un ouvrier fusillé de la commune, et que c'était tous des petits Français. Il était aristocrate, il était juif, il était ouvrier, qu'en famille ou en cercle familial et intérieur. Et c'est ce double registre sur lequel on avait été, au fond, élevé. Votre mémoire personnelle, en quelque sorte, chez vous, est le tout, l'emballement national et qui a fait la France. Voilà. Et a explosé. Et c'est cette revendication de cette mémoire minoritaire qui est arrivée dans les années 80.
Oui, c'est pas cette mémoire minoritaire que vous traitez dans les lieux de mémoire. Dans les lieux de mémoire, c'est la France.
C'est la France.
Voilà, c'est la France.
Et c'est les lieux de... Mais parce que ce que réclamaient ces mémoires minoritaires n'était pas d'imposer à la France et à l'idée nationale leur propre point de vue, c'était plutôt d'inscrire leur propre histoire au grand livre de l'histoire nationale, d'être reconnu par cette histoire nationale.
Oui, mais...
C'était donc la première période dans laquelle les lieux de mémoire sont nés.
D'accord,
mais les années 80. Et c'était au départ une forme d'histoire presque expérimentale. Je décris, ou plutôt Bonnaouzouf, qui était à mon séminaire, décrivait ensuite à la fin très joliment me décrivait au tableau noir en train de faire des grandes listes pour les lieux transgressifs, les lieux traditionalistes, les lieux matériels, les lieux immatériels, etc. Et l'expression elle-même était très nouvelle. Lieu de mémoire, qui est aujourd'hui tellement répandu, était à l'époque encore très incertain.
Alors, c'est intéressant. Vous dites donc que finalement, cette idée s'est imposée à vous du fait de l'émergence et de la prolifération de ces mémoires minoritaires, mais il s'agit en l'occurrence de la mémoire de la France, ou de la France comme mémoire, de la France patrimoniale, alors la nation, la République, la France, c'est un livre immense, mais justement, ça a aussi quelque chose d'important et de pathétique à la fois, oui. Dans la mesure où le droit à la continuité, dont parle Ortega et Gasset, mais également Simone Veil, est aujourd'hui remise en cause. Remise en cause.
Ah, c'est et voir elle-même.
Je vais citer une nouvelle fois Gomez Dávila, qui dit « La civilisation n'est pas une suite d'inventions perpétuelles, mais le devoir d'assurer la perpétuité de certaines choses. » Et cette perpétuité n'est plus assurée, justement, du fait de tous les changements que connaît le monde, notamment le changement démographique. Donc, cette mémoire, nous y sommes attachés. Et d'ailleurs, et c'est ce qu'on a vu avec la séquence qui a lieu entre la mort de la reine d'Angleterre et ses funérailles. Nous avions tous les yeux rivés sur cet événement. Ça concernait l'Angleterre, la mémoire anglaise, mais ça nous concernait aussi cette façon d'habiter tout son temps, de circuler dans tout son temps, comme l'a dit Ortega y Gasset, et cette façon de dire, bah oui, il y a quelque chose de permanent qui doit pouvoir demeurer alors même que nos sociétés changent et deviennent des sociétés multiculturelles. Donc il y avait quelque chose, je pense que les lieux de mémoire aussi remplissent cet office-là, Pierre Morin.
Oui, c'est pour ça que je l'ai terminé par un chapitre qui s'appelait « L'ère de la commémoration ». C'est-à-dire que l'histoire active était comme devenue une forme d'histoire commémorative. Et vous avez raison d'évoquer l'enterrement d'Elisabeth II, parce que nous lui sommes nous-mêmes un peu reconnus alors que ce pays était... et n'était pas le nôtre, parce que il y avait là l'exemple type d'une culture qui s'exaltait dans sa continuité et qui était d'autant plus émouvante qu'elle couvrait tout le siècle, qu'elle était très marquée par la guerre, car le souvenir le plus fort probablement qui est attaché à Elisabeth II, c'est sa conduite pendant la guerre, où elle allait dans les ruines et donc communier en quelque sorte avec le peuple lui-même. Et c'est donc, au fond, je crois, ce qui en fait un lieu de mémoire, que cet enterrement était l'image, la dernière image de ce qu'avait été la grandeur de l'Angleterre, à un moment où elle se défait, où elle est en crise totale, et économique, et on le voit aujourd'hui politique elle-même, puisque la nouvelle tête de l'Angleterre est très à droite et que la reine a eu juste le temps de l'introniser en quelque sorte. Bon, alors dans tout cela, il y a quelque chose qui effectivement est de la mémoire pure et de l'image commémorative absolue.
Mais une mémoire un peu douloureuse, justement. Parce que
une mémoire pathétique, parce que le signal, une fin. C'est la fin. C'est illusoire. C'est la fin. C'est comme De Gaulle pour nous. La reine d'Angleterre.
Oui, vous avez raison. Donc, mais alors, ça, vous pourriez dire aussi que c'est la fin aussi en France. C'est la fin de quelque chose.
Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on l'a ressenti, d'ailleurs. Je pense. Même c'était aussi nous un peu, parce que ça a été la guerre, encore une fois.
Ça a été la guerre, et parce que, donc d'une certaine manière, les lieux de mémoire, c'est une façon pour les Français
de communier,
de rester fidèles à ce passé qui s'efface.
Voilà,
passé qu'ils sont en train de perdre.
Exactement, et c'est pour ça que je crois qu'une des premières phrases de mon introduction au lieu de mémoire, c'est « Il y a des lieux de mémoire parce qu'il n'y a plus de mémoire ».
Ah oui. Eh bien, dis donc. C'est terrible. Je ne vois pas d'autre conclusion à donner à notre entretien, Pierre Nora. Je suis ravi de vous avoir reçu, donc, pour ce livre, Une étrange obstination, que vous publiez aux éditions Gallimard. L'émission de la semaine prochaine aura pour titre Littérature et politique. Mes invités seront Vincent Berthelier et Alexandre Geffen. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Julien Calvas. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site franceculture.fr à la page de l'émission Réplique. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.